Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end intense où il va se passer beaucoup de choses et nous allons tout décrypter dans quelques instants. Au sommaire, justement, le Money Time est incroyable en Ligue 1. 6 équipes se battent pour la Ligue des Champions, 5 équipes luttent pour ne pas descendre. Assistons-nous à une grande saison, ce sera la une des GG dans quelques instants. J-1, avant le choc en rugby, la demi-finale de Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain. La fessée il y a 10 mois en finale du top 14. Compte-t-elle encore? On se posera la question. Ce sera le bras de fer des GG et ce sera un 2 contre 2. 11h, on ouvre le dossier Carlos Alcaraz et des doutes autour de sa volonté de devenir le meilleur joueur de l'histoire. Un champion, peut-il renoncer à écrire l'histoire? Débat passionnant et je vous attends évidemment sur cette question, les GG. Et puis, évidemment, nous allons parler dans quelques instants aussi du Paris FC qui a validé sa montée en Ligue 1 la saison prochaine. Le président Pierre Ferracci sera notre invité. Ce sera aux alentours de 9h40 dans une petite demi-heure. Soyez bien présents au rendez-vous. On vous attend évidemment au 32-16. Les grandes gueules du sport ce matin, elles sont toutes dans le studio RMC. Je vous les présente. Une grande gueule qui, comme le muguet, on l'aime bien, week-end par an. Christophe Cézieux, salut Christophe.
C'est bien, voilà, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vaut mieux être aimé au moins au week-end que rien du tout, quoi.
Et on t'aime, Christophe.
Ah, mais je sais.
Ça va, mon cher Christophe?
Tu aimes bien venir me cueillir comme ça le matin.
Voilà, hein, te cueillir. Le 1er mai. Oh oui, ah, c'est le mot. J'aime te cueillir. Tout va bien, t'as passé une belle semaine?
Ah, écoute, magnifique. Il faisait grand beau. J'ai fait du vélo, j'ai joué au tennis et j'essaye de rattraper Julien pour un jour le défier. Voilà, donc
non, magnifique.
Ah non, mais là, une semaine comme ça.
Tu as une mine responsable.
Ah non, mais.
Il fait pas 60 ans.
Non, il fait plus, je suis d'accord. Une grande gueule qui, comme le muguet, il fane rapidement. Denis Charvet, salut Denis.
C'est gratuit. C'est drôle.
Totalement très drôle en plus. T'aurais pu faire un peu mieux, mais bon, qu'est-ce que tu veux.
Oui, mais on fait avec les moyens qu'on a.
Je fane, mais voilà, tout va bien.
Ça va, mon cher Denis? Ouais. T'as pas trop pris le soleil, toi? T'es moins bronzé que
Christophe. Moi, je pars en vacances, je bosse, je travaille.
C'est vrai.
Il y a un studio au Moscato Show, tu sais, il n'y a pas trop de soleil.
Non, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien.
Il y a pas de fenêtre. Il y a la clim, c'est bien, quand il fait chaud.
Mais t'es dans le KGB, quoi.
Voilà.
Ça va, mon cher Denis?
Ouais,
mais t'es en forme quand même, t'es un peu de sourire.
Le mec travaille la semaine, le week-end, la nuit, le matin. Non, mais c'est un bourreau, quoi. Il n'a jamais autant travaillé de sa vie, quand même. Il a fallu attendre 60 ans pour recommencer à bosser.
Oui, c'est vrai.
Quelle carrière.
C'est François Pesanti qui m'a mis au boulot.
Et quelle reconversion. On l'embrasse à François, t'as bien raison. Une grande gueule qui, comme le muguet, il est très fragile, étonnant pour un poids lourd de judo, Fred Le Canu. Salut, mon Fred.
Ouais, je m'attendais pas à ce que tu me fasses de fleurs.
Oh,
c'est magnifique. Mal. Ouais, je suis en pleine forme, tu vois.
Ouais, je vois.
Mais me regarde pas avec tes petits yeux en disant que t'aurais pu faire une blague en disant que je suis un peu une plante grasse. Non, non. Je suis plein de grâce aujourd'hui pour partager plein de choses avec vous.
Ok, il est en forme, Fred Le Canu. On est ravis, évidemment, toujours de t'accueillir dans cette émission. Et puis une grande gueule qui, comme le muguet, n'a jamais gagné Roland Garros. Julien Benito, salut Julien.
Je pensais que t'allais dire, comme Alcaraz, il a renoncé à l'histoire. Mais il n'avait pas le choix. Mais il n'avait pas lui, c'était pas par choix. Mais lui, c'était pas par choix.
Tu la garderas, ça, c'est sûr. Je te la pique et la prochaine fois que tu viens, j'y vais parce que je la trouve très bonne. Ça va, Julien?
Ouais, très bien, merci. Ouais, content d'être avec vous.
Ben oui, nous aussi, on est très
heureux. Bon, tous ensemble.
Tout le monde. Ah, tout le monde. On est bien là.
Ah, ouais, on est bien.
Et surtout, en plus, toi, t'es décontracté, t'es bien parce qu'on a appris évidemment dans la presse.
Décontracté.
Libéré.
Non, pas libéré, voilà. C'est
une page qui se tourne.
Exactement. Ben, okay. La fin d'une première histoire.
Voilà, tu n'es plus avec l'équipe de France féminine de Fed Cup.
Tu vas pouvoir nous raconter comment ça se passe avec les nanas.
T'as vu, il vient te chercher.
Dis-nous tout.
Sache que tu es toujours ici chez toi, évidemment, sur RMC et dans les grandes gueules du sport. Alors, c'est l'événement ce matin sur RMC. Vous allez pouvoir remporter vos places pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. C'est Paris Saint-Germain-Arsenal. C'est mercredi prochain à 21h au Parc des Princes. C'est évidemment à suivre sur RMC. Et nous, on vous propose encore mieux de partager l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez aux émissions sur notre antenne. Direction ensuite le Parc des Princes pour assister à la rencontre avec la personne de votre choix. Et enfin, vous revenez ici dans nos locaux, dans les coulisses de l'after pour le débrief de la rencontre. Dès que vous entendrez ceci dans cette émission, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Ça va tomber dans cette émission. Peut-être une fois, peut-être deux fois, Bonne chance à tous, évidemment. PSG Arsenal, vous pouvez aller au Parc des Princes grâce à RMC. Vos places se gagnent uniquement sur notre antenne. Allez, on débute cette émission avec cette citation d'Ovid, qui a dit un jour, les petits ruisseaux font les grandes rivières.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Côté gauche, il va le tirer au deuxième poteau. Il y a une tête niçoise. Et c'est la légende, Ndaye Chimiye. Il a sauvé 5 ballons sur sa ligne. Il vient mettre le troisième but niçois.
C'est terminé. Au Vélodrome, victoire de l'Olympique de Marseille. 4 buts à 1. Le triplé d'Amine Gouiri.
Voilà, avec Lamedo qui se lève pour applaudir cette nouvelle victoire. 11e match consécutif sans défaite pour Strasbourg. Voilà le réveil lyonnais. L'OL réenclenche la première et avance dans ce championnat. 4e provisoire. Monaco voit revenir sur ses talons et très très proche l'OGC Nice. Enfin, là, chaque but va compter d'ici la fin de saison. La victoire très importante des Lillois. L'énorme bond au classement pour Lille.
L'OM qui reprend sa deuxième place et qui valide cette escapade italienne avec des sourires, avec des points rageurs.
Quel scénario ! 6 équipes se tiennent en 4 points à 3 journées de la fin. La lutte pour la Ligue des Champions n'a jamais été aussi intense, n'a jamais rassemblé autant d'équipes. Marseille, 2e, 58 points. Nice, 3e, grâce à sa victoire hier soir, 57 points. Lille, 56 points. Monaco, 55 points. Lyon, 54 points. Strasbourg, 54 points. Bref, vous l'aurez compris, un suspense incroyable. En bas de tableau, Reims, Nantes, Angers, Le Havre, Saint-Etienne luttent intensément pour rester en Ligue 1. DAZN décrié, DAZN arrêté. On en reparlera dans cette émission. Mais DAZN
censuré.
Non, je l'avais pas ça là, tiens. Attends, je vais la refaire. DAZN décrié, DAZN arrêté, mais DAZN gâté tout de même cette saison. La musique qui fout les jetons et cette question. Assistons-nous à une grande saison, mais GG, oui ou non ? Christophe Cessieux.
Non.
Fred Le Canu.
Oui.
Julien Beneteau.
Non. C'est tellement évident.
Denis Charvet.
Non.
Non, c'est tellement évident. Oh, les pisse froids ce soir.
Mais non, pas du tout.
Si, si.
Non.
Christophe, commence. Non, on va laisser. Mais... Il va vous répondre. Non,
franchement, cette la prod qui a été réalisée, ouais. Elle est assez extraordinaire, ouais, mais elle ne reflète pas du tout ce qu'on a vécu tout au long de la saison. Oui, on vit depuis 15 jours, 3 semaines, jours. Une espèce de lot de consolation. Je le disais d'ailleurs, la saison est devenue intéressante une fois qu'on a passé Paris champion. Voilà, ça y est, vous avez le titre. Maintenant, les autres... Les battus vont pouvoir se battre entre eux, mais une grande saison, c'est la lutte pour le titre. Je suis désolé. Dans le Tour de France, terminer deuxième ou troisième de l'étape, on s'en fout. Il y a qu'un truc qui intéresse, c'est le vainqueur de l'étape. Et dans le foot, c'est un peu la même chose. La lutte pour la première place, c'est ça qui nous fait vibrer. Rappelez-vous Lille qui devient champion à la dernière journée. Les bagarres entre l'OM et Bordeaux à la grande époque, entre le Paris Saint-Germain jusqu'à la dernière seconde, c'est ça qui nous fait vibrer. Les grands classicos, là, on a eu le premier classico en tout début de saison, OM Paris Saint-Germain, ouais, tout le monde était emballé. Au bout de 10 minutes, il y avait déjà 1-0 pour le PSG, puis 2-0. Voilà, ça nous a cassé le truc. Alors, c'est sûr, c'est un magnifique lot de consolation, cette lutte pour la deuxième place, mais je vous le disais, le deuxième, le troisième, c'est les premiers débattus. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la lutte pour le titre. Et quand il n'y a pas de lutte pour le titre, parce que le titre est d'ores et déjà acquis par le PSG dès la moitié de la saison, ça casse un peu le mythe et ça casse l'ambiance. Quoi.
Et on ne peut pas donc assister à une grande saison pour toi.
Après,
si le titre est déjà joué.
Je suis ravi de voir le GC Nice se bagarrer pour aller chercher une place, mais ce n'est pas pour ça qu'on a vécu une grande saison. Est-ce que vous avez en souvenir, en mémoire, un grand match cette saison ? Est-ce que vous avez un grand match
en
Ligue
1 ? Un seul, Lyon-OM.
Ouais,
Lyon-OM 3-2, scénario tout à l'heure. Mais j'étais en train de me dire ça. Au-delà de la lutte pour le titre, au-delà de la lutte pour l'Europe, etc.
Est-ce qu'on a eu un grand match ?
Il n'y a pas un grand match. On n'a pas un grand match.
Même les classicos étaient très décevants.
C'est une saison, mais lambda, quoi. Là, vous nous avez fait une prod de dingue.
Vous êtes en train de dire qu'on vend une salade qui n'est pas fraîche.
Oui, exactement. Et on aurait pu dire, assiste-t-on à une petite saison ? T'aurais pu faire l'effet inverse.
Et t'aurais dit oui ?
Oui.
T'assistes à une petite saison, là ?
Oui. Oui, ouais, j'assiste à une petite saison. Mais comme l'a très justement dit Christophe, il n'y a aucun intérêt.
Quand
y a
pas les arguments de Fred.
Mais quand tu n'as pas de compétition dans n'importe quel sport, ça peut pas être grand.
Il y a une compétition pour la deuxième et troisième.
Mais non, ce n'est pas une compétition.
C'est pas la même chose.
C'est la consolation, comme tu le dis. On va chercher une place pour être européen. On ne va pas chercher une place pour avoir un titre.
C'est le titre qui fait la saison, qui fait la beauté du sport. C'est un titre, c'est dans tous les sports quand même.
Ok, j'ai envie de vous répondre, mais c'est pas mon rôle pour l'instant. J'arrive dans quelques instants, mais Fred Le Canu nous dit oui, on assiste à une grande saison. Fred.
Oui, on assiste à une grande saison. Je suis très surpris de ce côté très réducteur de mes amis autour de la table. Ça manque quand même vraiment de hauteur.
Toi qui as fait la compétition, ça m'étonne que tu répondes.
Alors regarde, on va revenir sur
deuxième et troisième.
On va revenir. Bah justement, t'as entièrement raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sport, c'est l'incertitude. Il n'y avait aucune incertitude avec le Paris Saint-Germain dès le départ. Ouais. Donc déjà, quand vous me faites les surprises en disant « Bah oui, regardez, on est super déçus », le titre est fait, on le savait dès le déjà. Donc les gars, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a quand même un grand champion, qui est le Paris Saint-Germain, qui est encore dans l'incertitude de gagner la Ligue des Champions.
Mais ça n'a aucun rapport.
Bah si, c'est un rapport. Ça veut dire que le truc, il est excitant. Là-dedans, une fois que tu as fait ça, l'incertitude aujourd'hui, elle est totale. Elle est totale pour en haut, elle est totale pour en bas. Quand tu me dis « Ouais, il n'y a pas eu de grands matchs, on oublie le PSG Monaco, il y a eu 4-2, il y a quand même eu d'autres grands matchs que vous avez oubliés, les gars. » Et puis l'autre chose quand même.
On les voit pas.
Vous êtes des mauvais joueurs, parce qu'en plus de ça, il y a des aventures humaines derrière. Il y a quand même des supporters là qui dorment pas la nuit. Il y a des histoires à raconter. Il y a des places pour l'Europe. Ça se joue en quelques points.
Non,
je te parle des gens qui suivent le foot derrière leurs équipes aussi. Là, les gars de Nice, ils dorment pas. Les gars de Marseille, ils dorment pas. Et en plus, il y a d'autres sujets. Oui, ben, il y a d'autres sujets aussi à vivre. Regarde l'OM ce qu'ils font là. Ils sont partis en Italie. C'est des sujets qui sont complètement inédits. Ça n'avait jamais été fait. Il y a plein d'histoires à raconter. Il y a plein de choses
annexes.
Moi, je trouve ça hyper intéressant de savoir l'OM en Italie si ça va aller au bout. C'est passionnant.
Intéressant pour voir. Mais moi, je réduis pas le. Parce que la question, c'est assistons à une grande saison. C'est pas. Moi, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de lutte pour le titre ou quoi que ce soit.
C'est le niveau, toi.
Ouais, c'est global, quoi.
Moi, je trouve que c'est le niveau de la Ligue 1.
Assistons à une grande saison. Enfin,
elle est passionnante, cette saison. T'as même un club aujourd'hui qui peut finir sur le podium sans entraîneur. C'est passionnant, quand même.
Tu parles de Lyon, évidemment, avec
Fonseca. Je trouve ça passionnant, la réaction des joueurs, comment ils vont tenir sans. Enfin, franchement, si vous êtes juste là pour savoir qui va être champion de France, on le sait depuis le départ.
Là où je rejoins Fred, c'est sûr que, évidemment, si on juge une saison que par le prisme du titre, malheureusement, Ligue 1 est depuis des années, même si quelques années comme ça, Monaco, Lille, qui. On peut jamais être positif sur la Ligue 1. Le texte, c'est que le contexte. Évidemment, si on parle de DAZN, on a beaucoup parlé de DAZN, on en reparlera dans cette émission. Évidemment, avec un championnat invisible, un championnat qui a du mal à trouver une identité, qui a du mal à communiquer.
Dans la programmation, le match du vendredi soir, il est passé, mais complètement de la Ligue 1. Il y a tellement d'actualités sportives, de trucs, etc. J'avais même oublié qu'il y avait un match hier soir de Ligue 1. C'est Nice. Voilà. Tu vois? Ça contribue et c'est pas un hasard si Canal a complètement tout laissé. C'est parce que la Ligue des Champions, la première ligue, regarde Liverpool. Eh ben, je suis désolé. Moi, en Angleterre, c'est une grande saison. Et Liverpool, ils ont gagné avec 20 points d'écart. Mais parce que c'est tous les week-ends, c'est fantastique.
Mais non, mais c'est le niveau.
Évidemment
que c'est le niveau.
Dans notre championnat, aujourd'hui, où on sait à quel point économiquement c'est très compliqué, ok, on est tous d'accord pour le dire. Vous voyez qu'il y a 6 équipes qui se disent c'est à la vie, à la mort. Il faut absolument qu'on aille en Ligue des Champions. Avant, il y avait que 3 places. Maintenant, il y en a une 4e qui s'est libérée.
C'est pas pour tout le monde. Oui, pareil. Pour l'OM, c'est à la vie, à la mort.
Mais un peu moins pour Strasbourg, évidemment. Mais on sent à quel point ces équipes sont omnubilées par la Coupe d'Europe.
Oui, mais ça fait 15 jours.
Ça fait 15 jours. Ils travaillent mal et que c'est pas normal qu'ils soient autant dépendants de ça.
Oui, peut-être.
Sauf que sur le terrain, tu sens que les enjeux sont énormes.
Oui, les enjeux sont énormes. Il y a des enjeux financiers. Et puis là, tu parles de ceux qui sont vers le haut. Il y a aussi ceux qui sont vers le bas.
Parce que t'as aussi
les enjeux de descente et toute la dimension économique. Tu parles aussi de
Toutes les saisons sont exceptionnelles parce que tous les ans.
Mais non, parce que jamais ça se balance. À ce moment-là, on prend plusieurs critères et on donne notre réponse. Parce que ce que tu dis, tu évoques tout l'emballage, tout ce qu'il y a autour, tout ça. Évidemment qu'il y a des scénarios qui sont incroyables dans ce Ligue 1. Mais c'est pas pour ça que c'est une grande saison sportive. Encore une fois, je sais pas si on parle du côté sportif ou pas.
Si on parle du côté sportif, c'est important de savoir de quoi on parle.
Je sais que c'est pas une grande saison sportive, dans le sens où les meilleurs pourront pas aller en Ligue des Champions et devenir.
Non, la qualité, je te parle de la qualité du jeu.
Ça, on est d'accord, mais dans l'histoire, c'est une histoire extraordinaire.
Tous les ans, il y a une dramaturgie. pour la descente.
On comprend rien.
En début de saison, moi, j'étais persuadé que Monaco pourrait s'accrocher
même l'OM,
même l'OM, même l'OM, et même l'Olympique de Marseille. Et je pensais que le PSG, qui changeait quand même un peu de sa façon de faire, serait peut-être plus challengé justement par des clubs tels que Monaco et Marseille. Ça a duré un mois et puis ça a disparu. Donc une fois que ça disparaît, moi, je suis désolé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même la lutte pour le titre et savoir qui
va être après de challenger le PSG avec Cornelius Brasseur en défense centrale.
Mais on y a cru quand même.
Toi, supporter marseillais, je pensais pas que le coup de couteau viendrait de ce côté-là.
Pour revenir sur la dramaturgie, il y a tous les ans, l'année dernière, Lorient, ils sont descendus avec un but. Ils devaient gagner 4-0, 5-0 le dernier match pour essayer de se sauver. C'était impensable. Et ils le font, ils gagnent 4-0 ou 5-1.
On juge pas une saison par son finish, c'est ça que tu nous dis.
Oui, en
attendant.
Tu prends tous les classements de la Ligue 1 sur la descente. Je pense que ça se joue à
toujours.
Point.
Tu l'as vécu quand en Ligue 1 que le Paris Saint-Germain pouvait aller au bout sans perdre un seul match. Tu l'as vécu quand Nice a battu. Ils ont perdu sur Nice juste avant quoi Arsenal. C'est extraordinaire comme histoire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous vous contentez.
Non,
les gars,
c'est
des gars
qui
on va faire descendre la température. Je vois que vous êtes très vive. Je pense que je vais avoir une émission très animée à animer dans quelques instants. C'est mon boulot, il n'y a aucun problème. J'espère que Lorraine vous bloquez quand même. Oui, attends, je suis en train de faire autre chose là, mon cher Denis. Je suis en train justement de reprendre la main parce qu'il est 9h24. On va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre notre discussion. Je vais même aller au-delà. Est-ce qu'on vit une grande saison pour le foot français, incluant la Ligue des Champions, les clubs qualifiés en Ligue des Champions?
Oui. Ah ben là, ça y est, tu triches là.
Mais je vous pose la question.
Mais non, mais oui. Est-ce que le football est intéressant, quoi, en gros? Tu vas nous faire aussi dans 5 minutes, quoi, pendant que tu y es.
Sachez que dans 15 minutes, Pierre Ferracci sera notre invité exceptionnel pour parler du Paris FC et de la montée en Ligue 2, en Ligue 1. Eux qui viennent de la Ligue 2, évidemment. Allez, à tout de suite sur RM, c'est encore un beau programme.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h29 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Fred Le Canut, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, Pierre Ferracci, le président du Paris FC, sera notre invité exceptionnel. Le Paris FC qui monte en Ligue 1, c'est officiel depuis hier soir, on en parle dans quelques instants. Mais restons un instant sur notre débat qui nous préoccupe. Vous le savez, nous sommes à 3 journées de la fin, une course pour la Ligue des Champions intense. Assistons-nous à une grande saison via le Direct Studio. J'ai de tout, j'ai à boire et à manger les copains. J'ai Kéro qui nous dit pour la Ligue 1, c'est une bonne saison. Pour le foot, c'est une saison de Ligue 1. Sébastien qui nous dit saison inintéressante. J'ai Malcolm qui me dit la saison est excitante. Bref, c'est partagé via le Direct Studio. Il y a Yannick qui nous appelle au 32-16. Bonjour Yannick.
Ouais, bonjour.
Alors, est-ce qu'on assiste à une grande saison, mon cher Yannick?
Ben d'abord, je veux pousser un gros coup de gueule.
Ah.
Car tout le monde dénigre la Ligue 1. Tout le monde. Alors, si on veut avoir une bonne Ligue 1, il faut que tout le monde soit positif. Ça, c'est une première chose. Hein. Sur toutes les antennes, on n'arrête pas de dire que le championnat est minable. Bon, moi, je suis abonné tout le temps. Je vois de très beaux matchs. Et il y a de tout, à moi, de très beaux buts. Et d'abord, après, le Paris Saint-Germain est avantagé parce qu'au niveau de la répartition des droits TV, ils sont super avantagés. Donc, si effectivement, il y avait une répartition beaucoup plus équitable, il y aurait un peu plus de clubs qui auraient un peu plus d'argent. Voilà. Et après, il faut comprendre que nous, la France, on n'était pas une terre de foot hein, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Italie, où il y a des clubs, ou l'Angleterre, où il y a des clubs mythiques depuis des années, quoi. Voilà.
Non, mais c'est intéressant, Yannick. J'ai demandé au GG de répondre. Arrêtons de dénigrer notre championnat, notre produit, parce que c'est sûr que si à chaque fois on se tire une balle dans le pied, c'est compliqué pour vendre notre championnat.
On a le droit aussi d'être frustré par rapport au niveau de commerciaux, au niveau de jeu. Non, mais la Ligue 1 n'est pas d'aujourd'hui. Moi, ça fait 30 ans que je regarde la Ligue 1, voire plus. Excuse-moi, il y a 30 ans, la Ligue 1, il y a 20 ans, on va dire. Il y avait un autre niveau. C'est tout. C'est un problème de niveau. Je sais pas pourquoi.
Il y avait un autre niveau où il y avait moins d'écart entre les équipes. Est-ce qu'on est
d'écart et un niveau technique meilleur, j'y me semble. Après, je peux me tromper. Hein,
non, mais des bonnes saisons, il y en a. Je veux dire, tu trouves toujours à manger quelque part dans une saison de Ligue 1. Mais des grandes saisons, il y en a pas tous les ans. Il y en a pas tous les ans en Ligue des Champions. Il y en a pas tous les ans en Première Ligue ou en Serie A. Je veux dire, les grandes saisons, c'est quand même exceptionnel. Heureusement que tu te régales pas toutes. Enfin, ce serait sympa, mais tu peux pas te régaler toutes les saisons dans tous les championnats.
Avec ce championnat, avec cet écart-là,
Non, mais c'est surtout quand tu compares en plus avec la Ligue des Champions. Parce que là, ça a été une saison exceptionnelle.
De niveau et le format de ce championnat, t'as des saisons qui sont fades souvent. Alors qu'au rugby, même s'il y a des écarts, etc., la dramaturgie, la course.
Le fait que le titre soit décerné au dernier match, en fait.
Il y a surtout une concurrence qui n'est pas la même qu'en Ligue 1. C'est voilà. Évident.
Je suis quand même sûr. Parce que le Stade Toulousain ne marche pas sur tout le monde.
Bah oui, c'est un club.
C'est bon. T'as Bordeaux qui arrive et le fait que le top 6 soit hyper puisse être champion. Il y a une dramaturgie sur chaque week-end qui est incroyable. Mais
je suis quand même surpris de ce que j'entends parce que la dramaturgie là qui arrive, elle est exceptionnelle. Moi, ce qui me surprend et là où je rejoins l'auditeur, c'est que pour valoriser la Ligue 1, faut raconter les histoires. Là, des histoires, il y en a des milliers à raconter.
Oui, mais bon.
Il y a tellement de choses. Mais
c'est dans des niches.
De résumer là la fin de l'histoire en disant ouais, la Ligue 1, c'est pas terrible. Paris Saint-Germain est tellement au-dessus. Enfin, je suis un peu surpris quand même. Là, le dénouement, l'OM, ce qui va se passer, c'est quand même exceptionnel à vivre. Enfin, je sais pas si on se contente pas de ça. Si à un moment donné,
qui vont perdre demain à Lille, c'est exceptionnel.
Bah écoute, bah tu sais quoi? Bah justement, c'est ça l'intérêt, c'est d'aller voir si, enfin, la fin de saison, là, elle est quand même incroyable. Là, il y a quand même plein de choses à vivre. Il y a plein de belles histoires. L'OM, regarde, l'OM qui part en Italie. Enfin, on n'en parle pas. C'est une prise de risque. Pourquoi est-ce qu'ils partent? Et ils sont meilleurs là. Ils sont quand même 4-1 sur Brest avec, enfin, il y a plein de choses à raconter.
Tu parles. Oui, je suis d'accord avec toi, mais sur le dernier mois. C'est-à-dire que c'est une saison, c'est pas un mois quand même. Là, évidemment, depuis 15 jours, on est là parce qu'il y a une lutte pour la.
Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je considère comme Fred que cette fin de saison. Non, mais c'est très rare que je me passionne à ce point pour une fin de saison, sachant qu'un titre est décerné. Voilà. Donc, je trouve qu'il s'est passé quelque chose là-dessus. Je trouve que ces quatre places en Ligue des Champions, eh bien, il y a beaucoup d'équipes qui veulent y aller et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Mais moi, je te fais le parallèle et on pourra parler des barrages, hein, parce que ça a été déjà une idée. C'est l'Arlésienne, hein, est-ce qu'il faut mettre des barrages en Ligue 1 pour justement accéder à des play-offs et pourquoi pas.
Des phases finales, tu veux dire.
Des barrages plus phases finales comme le top 14. Mais le top 14. Avec le tournoi destination, avec la Champions Cup, est-ce qu'on vit une belle saison de top 14? Ou est-ce que le top 14 n'intéresse que 3 semaines par an? Mois de juin. Non, mais je vous pose la question.
Il a raison.
Ah non, je suis pas d'accord.
Non,
il y a un vrai scénario au niveau du CD.
Mais c'est quoi ton scénario? Vous faites tourner tous les deux matchs.
Mais le scénario, toute la saison, tu sais pas, entre la 14e place et la. Parce que c'est encore le cas d'ailleurs. Bon, j'exagère. La 9e place et la 6e, tu sais pas qui va y être qualifié. Toute la saison. Parce que ce que disait Julien, c'est-à-dire que le 6e, il peut être champion de France.
D'accord.
Mais c'est la grande différence avec le football. Okay.
D'accord, mais il n'y a pas eu un seul vrai choc quand même en top 14. Si. Bah, c'est le problème
des doublons, tu veux dire.
Non, de faire reposer les mecs parce que tu joues à l'extérieur.
De faire reposer.
Oui, bien sûr. Mais la gestion de l'effectif.
Parce que tu sais qu'il faut gérer la fin de saison. Je suis désolé, mais les Bordeaux-Toulouse qui devraient être les matchs chocs, certains ont été un peu. Tu n'as pas envoyé tous les internationaux. Moi, j'aurais bien voulu voir toutes les stars du 15 de France. Opposer les unes aux autres. Demain. Mais demain, en Coupe d'Europe. Mais voilà. C'est pareil en Ligue des Champions.
Mais t'as jamais eu un choc, et pardon de faire ce parallèle, mais autant comparer, parce qu'on dit toujours le top 14, regardez ce qu'ils arrivent à faire, c'est exceptionnel, mais le top 14, t'as jamais eu un match avec une confrontation avec des équipes types. Pardon, mais vous me parlez du classique PSG. Ouais, au moins, il y avait les équipes types sur le terrain. Oui, le PSG était largement au-dessus, mais il y avait les équipes types.
Toulouse ou Bordeaux.
Le problème, pas
tous les matchs.
L'équipe type de Toulouse, ok. Les remplaçants de Toulouse, si tu compares. Ils sont quand même meilleurs que les titulaires de l'OM.
Peu importe. Moi, si t'as pas Dupont et si t'as pas Ntamack, bah, tu regardes moins le match. C'est tout.
Non, mais ça, c'est une réalité par rapport aux stars de ton équipe. Non, mais il a raison. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a les fans, il y a les supporters et ceux qui regardent les stars. C'est normal.
Est-ce qu'il n'est pas de bon ton, j'en reviens à notre débat, est-ce qu'il n'est pas de bon ton de taper sur la Ligue 1 et puis le top 14, de le glorifier? Alors, finalement, le top 14, moi, je vais te dire, ça va nous intéresser à partir du 15 mai.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand même que, malgré que le fait que parfois, il n'y a pas les équipes types et que, effectivement, on est un peu frustré de pas avoir toutes les stars, mais il y a des confrontations, la qualité est là.
Ouais.
Je suis désolé. Le niveau du top 14, malgré ce que tu dis, il est très haut.
J'en sais rien,
c'est ça qu'il faut mettre en avant.
Je vais te donner un exemple. Je regarde un peu la Ligue des Champions. Je regarde un peu le championnat d'Angleterre. Je regarde le championnat de France de football.
C'est ennuyeux.
Je m'ennuie.
Ennuyeux.
Je regarde un match du 15 de France. Je regarde des matchs de la Coupe d'Europe, je regarde un match du top 14, l'écart, il n'est pas aussi abyssal. Parce que la qualité du top 14, c'est le meilleur championnat du monde. Même s'ils font tourner, ça reste. C'est du bon rugby, c'est
bien sûr. Et puis, tu as toutes les stars du rugby mondial qui jouent aujourd'hui dans le championnat de France. Donc, alors que tu n'as pas toutes les stars du football mondial qui jouent en Ligue 1, quand même.
Mais tu en as de moins en moins.
Tu en as de moins en moins.
De moins en moins, à cause de l'économie. Tu en auras de moins en moins. Ça va être perduré.
Juste rapidement, les barrages, les play-offs en Ligue 1, est-ce que vous êtes pour justement maintenir ce suspense du titre ou pas?
Moi oui.
Ou non, c'est pas la culture,
la culture du foot, mais moi je bon, mais là, ils vont pas revenir en arrière, mais je suis pour.
Ça existera pas, ça existera.
Non, ça existera jamais, mais je suis pour.
Ça aurait été intéressant de faire l'expérience, je pense, pour voir ce que ça donne. Mais il y a des avantages, des inconvénients.
Donc là, on parle de faire des barrages en Ligue 1, c'est bien ce que je comprends.
Non, des finales.
Pour que ça soit plus excitant.
Pour que le
championnat. Là, on a un championnat naturellement qui est super excitant. Là, on sait pas qui va finir deuxième, troisième. Vous commencez à être compliqué. Là, vous m'expliquez qu'il faut créer un truc artificiel qui marchera jamais parce que vous savez très bien que personne va le faire. Pour avoir un truc plus excitant, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui de manière naturelle? C'est ça que vous demandez?
Vous savez quoi?
Il n'y a que toi qui raconte l'histoire de la Ligue 1. Oui. Les enfants pour qu'ils s'endorment. Alors, je vais te raconter la magnifique histoire de la Ligue 1 cette année.
Non, excuse-moi de me passionner. Excuse-moi de me passionner pour ton dénouement.
Passe une belle nuit, mon chéri.
Alors, chers auditeurs, si vous n'étiez pas assez bien réveillés à 9h, je pense qu'à 9h38, là, vous êtes facile. Hein. Évidemment, c'est la bataille déjà, la lutte dans les grandes gueules du sport. Alors, vous voulez un concurrent au Paris Saint-Germain pour vibrer pour une grande saison? Eh bien, ce sera peut-être le Paris FC. Qui sait? Le Paris FC qui monte en Ligue 1.
Ouais, Paris FC, moi, je suis à
ça.
T'as failli dire allez Paris là.
Allez Paris FC.
Non, je pense qu'ils vont me convertir.
Ah ben ouais, moi aussi.
Ils vont jouer dans un stade extraordinaire.
Vous savez quoi, Pierre Ferracci est notre invité dans quelques instants. Le Paris FC qui monte en Ligue 1 46 ans après un deuxième club à Paris dans l'élite. Allez, on en parle dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h40 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est toujours très heureux d'être avec vous le week-end, toujours avec Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Fred Le Canu, Denis Charvet à partir de 10h, le bras de fer des GG. Attention, c'est un 2 contre 2. Demi-finale demain de Champions Cup entre l'UBB et le Stade Toulousain. La fessée il y a moins d'un an en finale du top 14 compte-t-elle encore? On se posera la question et vous l'avez bien compris, vous n'êtes pas d'accord. Mais GG, mais tout de suite, le Paris FC en Ligue 1.
Explosion de joie, notamment Antoine Arnaud présent dans la tribune de presse, l'investisseur du Paris FC qui est directement descendu pour aller fêter avec ses joueurs qui se sont rués à l'instant vers le parkage avec ses dizaines de supporters pour la première fois depuis 1979.
Incroyable.
De la première fois, ça fait 46 ans que le Paris FC espère remonter dans l'élite et le président Pierre Ferracci, 13 ans de présidence, qui est en train de célébrer également avec ses joueurs, qui va rejoindre son effectif Paris, la capitale française aura deux clubs présents dans l'élite. Excès de joie pour Paris qui, avant son dernier match face à Ajaccio la semaine prochaine à Charletti, valide son ticket pour la Ligue 1 l'année prochaine.
Mais oui, vous l'avez vécu hier sur RMC. Il y aura donc un deuxième club à Paris dans l'élite 46 ans après le Paris FC qui a validé hier soir officiellement sa montée en Ligue 1 sur la pelouse de Martigues. Une saison débutée, vous le savez, dans l'ombre. Puis la lumière dès le mois de novembre avec le rachat de la famille Arnaud pour finir en apothéose avec cette montée. Je vous propose cette séquence captée par nos amis de beIN Sports et Antoine Arnaud, le propriétaire, fils de Bernard, hier après la rencontre dans le vestiaire avec ses joueurs.
Vous voyez arriver un grand actionnaire, puissant, connu, sauf que vous êtes déjà là, vous êtes déjà une équipe, vous êtes déjà un club, vous avez déjà des résultats extraordinaires. Et la manière dont vous avez géré cette transition, cette arrivée et la pression, c'était extraordinaire à voir. On s'est vu un petit peu, pas tellement, mais un petit peu, et vous avez été géniaux dans la manière de mentalement de gérer ça. Sur le terrain aussi, franchement, moi j'ai un petit peu découvert la Ligue 2, je me suis retrouvé devant des pommesses à 10h30 du soir. Franchement, je comprenais même pas ce qui m'arrivait, à hurler. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, honnêtement, la Ligue 2, je pense que je vais continuer à regarder. Mais en tout cas, je suis quand même bien content que vous ayez fait le job et que vous soyez en Ligue 1. Bravo!
extraordinaire séquence hein, avec avec Antoine Arnaud dans le vestiaire du Paris FC. Qu'est-ce que vous inspire, qu'est-ce que ça vous inspire les GG? On va accueillir Pierre Ferracci dans quelques instants, le président du Paris FC. Cette montée d'un deuxième club parisien.
Moi beaucoup de sympathie. J'ai beaucoup de sympathie pour ce club. Et d'ailleurs, ce club me rappelle mes premiers souvenirs en foot. Je crois que je devais avoir 8-9 ans. Je venais d'arriver à Paris avec mon papa. Il m'avait
amené
par
les pinces.
C'était en 1974 ou 73, je sais plus. Et je me rappelle avoir vu. Moi, je suis niçois, donc être allé au parc. Qui était tout nouveau, voir le GC Nice jouer contre le Paris Football Club, qui jouait avec un maillot orange à l'époque, avec le père de Youri Djorkaeff qui était dans cette équipe. Et je sais pas, moi, ces images d'enfants me sont restées dans les yeux, et j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ce club, et je trouve que l'histoire est magnifique. Je trouve que l'histoire de son président est top aussi, un mec qui s'est arraché, qui depuis des années se bagarre, qui a mis beaucoup de sous, qui a mis beaucoup de son énergie pour arriver à les faire remonter. Et voilà, et je trouve que c'est pour l'instant c'est l'anti PSG. Bon, maintenant il y a un milliardaire qui arrive aussi à la tête, donc voilà. Mais et puis ça va nous faire le derby le plus rapproché du monde quand même. Il y a une rue qui sépare les deux stades.
Ouais, on est à moins de 100 mètres là. Hein.
Même pas 100 mètres. Non, ouais. Ça va être chouette.
Exactement. Qu'est-ce que ça vous inspire, toi, le Parisien, là, Denis Charvet?
Moi, tu sais très bien que je suis un grand supporter du PSG, donc mais je trouve super qu'il va y avoir un autre club à Paris. Ça fait longtemps qu'il n'y avait plus ce club. À l'époque, il y avait Racing Matra. Souviens-toi.
Dans les années 90.
Mais c'est génial, oui. Et puis ils vont jouer dans un stade, on va accueillir le président, mais dans un stade extraordinaire que j'adore, qui est le stade Jean Bouin.
Ah, c'est autre chose que
ça. Et j'irai bien sûr voir le premier PFC PSG.
Donc là, il va y avoir un peu de monde à mon avis.
On n'a pas encore la date, le calendrier de la saison prochaine n'est pas tombé. Ok, Julien Beneteau.
Non, moi aussi, un peu comme Christophe, beaucoup de sympathie. J'aime bien aimer le discours d'Antoine Arnaud, où c'est vrai que une fois que leur arrivée a été annoncée, ça pouvait rajouter un peu de pression et d'avoir géré
même beaucoup, hein.
Beaucoup. D'avoir su gérer ça, c'est une vraie réussite de la part du président Ferracci, de l'entraîneur actuel Stéphane Gilly et de son staff. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis ils font les choses dans l'ordre. Donc j'espère ils brûlent pas les étapes. Ils sont pas là pour faire n'importe quoi. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir bien s'installer en Ligue 1 avant de jouer les premiers rôles avec une rivalité forcément avec le PSG. Et un beau derby dans cette capitale.
Pierre Ferracci sera avec nous dans quelques instants. Fred Le Canu.
Oui, moi je suis très heureux parce que la concurrence stimule le marché. Donc il y a eu des capitales dans d'autres pays où il y a eu plusieurs clubs. Bien là sûr. C'est le cas, donc c'est extraordinaire. Et puis j'ai hâte de savoir la ligne éditoriale justement de ce qu'on va faire maintenant. Qu'est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on cherche le titre? Est-ce qu'on cherche à prendre 2-3 ans pour s'installer?
Le président va te répondre.
Et ouais, c'est ça. J'ai hâte de l'avoir, le président, parce qu'on a plein de questions à lui poser sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fait maintenant.
Tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait maintenant? Pierre Ferracci, le président du Paris FC, donc notre invité ce matin. Bonjour Pierre. Bonjour président.
Bonjour.
Merci.
Je suis sur la route de Calais où je vais voir la finale PSG Paris FC.
Le premier derby.
La finale de la Coupe de France féminine, c'est à 15h aujourd'hui, c'est à suivre sur RMC. Donc évidemment, Martigues, Calais, là vous êtes sur la route pour rejoindre le Nord. Dans le studio RMC, vous l'avez bien compris, je vous les présente. C'est notre éditorialiste Christophe Cessieux, Fred Le Canu, notre judoka, Julien Beneteau, notre tennisman, et Denis Charvet, rugbyman. On a pas mal de questions à vous poser. Je commence avec la première, président. C'était quoi votre première pensée ce matin en vous réveillant?
Oh, ben ma pensée, c'est d'abord penser à un grand dirigeant qui nous a quittés il y a 3 mois, Christian Amara, qui était là dès le début, quasiment au moment de la scission entre le PSG et le Paris FC en 1971, et qui aurait aimé être là parce qu'il rêvait de remonter en Ligue 1. Il avait connu la D1, lui, à l'époque. Et puis, c'est tous ceux qui m'ont accompagné dans ce travail, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de mettre sur orbite un deuxième club à Paris. C'est plus difficile qu'ailleurs. Moi qui suis corse et qui vois 2 clubs pro dans mon petit territoire de 350 000 habitants, ben dans une agglomération de 12 millions d'habitants, c'est compliqué, parce que le PSG, tant mieux pour lui, occupe tout le terrain depuis 40 ans, encore plus depuis 15 ans que les Qataris sont là. Ben, je vais rejoindre ma sœur, là, qui sera aussi à la finale de la Coupe de France féminine. Ben, moi, je rêve maintenant de la suite, et je suis en plus ravi de permettre à la famille Arnaud de ne passer que 6 mois en Ligue 2, parce que moi, j'y ai passé quelques années.
Vous êtes là depuis 2012, je le rappelle, et ouais. Puis vous avez connu quelques échecs.
au terme de très, au terme de très belles saisons, hein. 2019 barrage, 2021 barrage, 2022 barrage, 2024 barrage, comme si cette équipe était un peu maudite. Christophe Cessu ouais, avec le président Ferracci.
Vous êtes un grand chef d'entreprise, vous avez tout connu avec votre entreprise qui est montée petit à petit. Est-ce que vous pensez, vous avez pensé à un moment que vous n'auriez pas la même réussite dans le football que dans les affaires? C'est quand même encore plus compliqué, on a l'impression, de réussir dans le foot que réussir dans les affaires.
Bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a des résultats sportifs qui sont parfois aléatoires. Vous savez, parfois on travaille bien et puis on perd hein, dans le football. Mmh. D'abord parce qu'il y a de la concurrence.
Dans le tennis puis, aussi.
Ouais, mais
on travaille bien, on perd.
Je sais bien. Dans le sport aussi. En général, il y a quand même quelques aléas. Et puis à Paris, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que on n'a pas d'installation. Moi, je suis depuis 5 ans à Orly avec un beau centre de formation et un beau centre d'entraînement, mais j'ai galéré pendant des années. La question du stade, vous venez d'évoquer. Moi, je suis ravi d'atterrir à Jambouin et de partager le stade avec un club de rugby. J'espère d'ailleurs que le stade français se maintiendra en top 14. Et on va tout faire pour le soutenir également, comme il nous a soutenu hier, d'ailleurs, avec un message très, très sympa de Thomas Lombard. Donc voilà, c'est plus compliqué à Paris, mais j'ai jamais... Il faut avoir une stratégie, ne pas la louper. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que le foot français... Il a toujours été polarisé par les droits de télé, on voit la crise aujourd'hui où elle nous emmène, par les transferts des joueurs parce qu'on est un bon pays formateur. Mais il faut amener les forces économiques comme en Allemagne. Moi, mon modèle, c'est l'Allemagne. Pourtant, je suis tourné vers le foot italien plutôt que vers l'Allemagne. Mais les Allemands, toutes les grandes entreprises sont dans le foot, sponsors ou actionnaires, souvent les deux. Et ça donne une solidité économique au football qu'on n'a pas en France.
Oui, mais c'est pas la culture du football. C'est pas dans la culture
française. Ils remplissent les stades, nous on le fait moins, il faut bien dire ce qu'il y a. Mais le fait que la famille Arnaud arrive aujourd'hui au Paris FC, ça va donner des ailes à d'autres. Il y a Xavier Niel qui commence en National 2 et c'est d'autant plus méritoire parce qu'il a passé 20 ans à Créteil. Mais c'est de bons signes ça. Vous voyez, il y a des clubs comme Laval en Ligue 2 qui font rentrer des groupes importants dans l'actionnariat. Je pense au groupe Lactalis. Ben, c'est aussi un bon signe. Il faut qu'on consolide le football comme ça. Et en gardant ce cap-là, je savais que j'allais y arriver. Alors après, j'aurais préféré y arriver avec quelques années d'avance. Mais ça, après, c'est les élèves du foot. On a fait 4 fois les barrages, on les a perdus. J'avais dit cette année, on va prendre une des 2 premières places. Ben, on l'a prise hier dans un match très difficile contre Martigues.
Et au moins, il n'y aura pas de barrage. Vous allez même jouer le titre lors de la dernière journée. Je voudrais qu'on parle de la
transaction en plus.
Exactement.
Mais c'est peut-être le bon timing, justement, avec la famille Arnaud qui arrive, président.
Vous dites,
on aurait pu monter avant, mais finalement, c'est peut-être le bon moment, il me semble.
On n'était pas prêt avant, vous avez raison. On n'était pas prêt parce qu'on n'avait pas de stade. Là, on va être à Jambouin. On n'avait pas d'installation pour nous entraîner. Et donc, on n'était pas prêt. Je pense que si on était monté sur les 4 années que vous avez évoquées, oui, ça aurait été très compliqué. Là, on va monter d'abord pour se maintenir. Antoine Arnaud a dit, quand on a fait la conférence de presse au mois de novembre, on ne va pas brûler les étapes. Il ne faut pas les brûler. On ne va pas immédiatement concurrencer le PSG. Ça n'aurait aucun sens. Il a les moyens que vous connaissez. Il a sans doute un des 3 meilleurs budgets du monde avec le Real et sans doute Manchester City. Donc, c'est pas le sujet. Moi, le modèle que j'ai demandé de copier à Antoine Arnaud, c'est celui de l'Atalanta de Bergame. C'est un club, j'ai discuté avec les dirigeants.
Ah bah c'est jouer l'Europe alors, c'est jouer l'Europe rapidement.
Non, pas tout de suite.
L'Atalanta
de Bergame, il y a quelques années. Aujourd'hui, ils sont dans le top 5 italien, mais ils n'ont pas toujours été. Ils ont un très beau centre de formation, ils recrutent bien. On a l'appui de Red Bull, ça c'est l'intelligence de la famille Arnaud d'arriver, non pas pour jouer la multipropriété comme Red Bull le fait d'ailleurs de façon plutôt intelligente, mais pour utiliser le savoir-faire de Red Bull dans le sport en général et dans le foot en particulier. Oui. Et ça c'est intelligent.
Président, le seul problème c'est que vous n'êtes pas à Bergame, vous êtes à Paris, vous êtes dans la capitale et vous savez que vous allez avoir une pression que n'a jamais eu Bergame quand même
Je suis pas forcément d'accord moi.
Mais vous savez, la pression, on l'a vécu, vous l'avez évoqué à l'instant, les joueurs l'ont bien supporté.
Bien sûr, ouais.
Stéphane Gilly a bien encadré l'équipe, moi je l'étais protégé. Peut-être qu'on a perdu, Antoine disait, 3-4 points avec ça, mais on les a regagnés avec la dynamique qu'apporte la famille Arnaud. Moi j'ai senti ça dans le club, un espèce de souffle géant. Bien sûr, la pression médiatique, la vôtre, depuis qu'ils sont là, le derby avec le PSG, on n'y est pas. On va y être l'an prochain, peut-être qu'on prendra une volée, je crois pas d'ailleurs. Mais on va s'y préparer. L'objectif, il est simple. On s'installe d'abord, on se maintient dans un premier temps. Après, on vise la première partie du tableau. Vous connaissez les Ligue 1 aujourd'hui, la première partie du tableau joue l'Europe. pas forcément la Ligue des Champions, mais les deux autres coupes. Et la deuxième partie, je vois ne pas redescendre. Ben, on veut s'installer dans la première partie du tableau. Et puis après, bien sûr.
D'ici combien de temps, président, juste alors?
Pardon?
D'ici combien de temps? Prochaine. Non, mais quand vous dites on brûle pas les étapes, c'est quoi? D'ici 3 ans, vous visez la première partie du tableau ou d'ici 2 ans?
Moi, j'ai dit à la famille Arnaud, l'Europe, ça se programme pas, ça se travaille. Ça peut venir vite, ça peut venir un peu moins vite. Vous savez, il faut qu'on prenne, d'abord, on arrive dans un nouveau stade. Il y a un modèle économique à construire. Vous connaissez la crise que connaît le football aujourd'hui. Il est temps que ça change, d'ailleurs, dans ce domaine-là. J'espère que Nicolas Taverneau apportera un peps supplémentaire et puis que la gouvernance du foot changera assez fondamentalement demain. Que j'en parle déjà depuis un moment, parce que moi je suis ravi d'avoir la famille Arnaud, mais j'aurais été encore plus ravi si je l'amenais dans un environnement qui est un peu plus satisfaisant que celui d'aujourd'hui.
Et plus sécurisant.
On va avoir des droits audiovisuels réduits quasiment à néant, en tout cas la première et la deuxième année. Bon, moi je suis ravi d'avoir des investisseurs puissants, mais enfin, il faut aussi que le cadre du football soit un peu plus sympathique, quoi, et surtout dynamique, et pour l'instant il n'est pas. Et on rêve à des choses qui sont inaccessibles aujourd'hui, donc il faut construire tout ça. Il faut reconstruire le football français autant que développer le Paris FC. Et je pense que ce que fait la famille Arnaud avec le Paris FC, ça donne un signe qui peut être très utile pour l'ensemble du foot.
Positif, bien sûr. Julien Benneteau.
Oui, président, justement, moi j'aime beaucoup le discours de faut pas brûler les étapes, d'avoir un peu d'ambition, de se maintenir dans un premier temps et de prendre comme modèle l'Atalanta de Bergame. Je trouve que c'est très bien. Et l'Atalanta de Bergame, ils ont un entraîneur qui est emblématique dans justement la construction d'effectifs, dans la manière, dans la philosophie de jeu. Est-ce que vous avez envie de continuer avec Stéphane Gilly comme entraîneur? Est-ce que cet entraîneur-là s'inscrit dans la future politique sportive que vous allez mettre en place en Ligue 1?
Ben, quand je vois le travail qu'il fait depuis 2 ans, oui.
D'accord,
bien sûr.
Très bien.
Il a fait un travail remarquable, vous savez. Construire une équipe, faire jouer Maxime Lopez ou Jean-Philippe Crasso avec des jeunes du Paris FC, c'est pas évident. Moi, je pense que... Alors, le problème du football masculin, vous le connaissez, hein, la durée moyenne, l'ancienneté moyenne d'un coach, c'est 16 mois ou 17 mois. Moi, j'ai Sandrine Soubéran du côté féminin, elle attaque sa 7e année. Et dans le football féminin, il y a une forme de régularité
de stabilité.
Qu'on n'a pas dans le foot masculin. Mais je souhaite que Gasperini à l'Atalanta de Bergame, ça fait 8 ans, Klopp à Liverpool, il a passé 7 ans, Guardiola à City, il a passé 6 ans. J'espère que le PSG, d'ailleurs, gardera aussi son entraîneur pendant un moment, parce que on voit bien qu'il fait de l'excellent boulot et que le sport, le foot, c'est d'abord un sport collectif, c'est pas un alignement de vedettes, quel que soit leur talent. Bon, le Real est en train de faire les mêmes bêtises, à mon avis, qui ont été faites ailleurs en accumulant des vedettes. Ça ne suffit pas, ça remplit les stades, mais ça fait
parfois
pas...
Parfois, ça marche aussi. Hein.
Faut pas dire, parfois, ça marche.
Donc, il y aura une vedette ou pas, quand même? Une ou deux vedettes la saison prochaine?
Petit à petit, je pense qu'il y aura... Dans un premier temps, on va essayer de se maintenir, mais si on vise à se mettre dans la première partie du tableau, il y aura des joueurs de talent, bien
voilà,
sûr.
Voilà, c'est du talent qu'il faut. C'est même pas des stars, c'est du talent.
Oui, c'est du talent, c'est du talent. Mais vous savez, le championnat de Ligue 2, il est très compliqué. Et en même temps, il va falloir modifier l'équipe pour exister en Ligue 1. Il y en a qui nous quitteront, il y en a qui resteront. Bon, le travail a déjà commencé. Il se trouve que c'est pas toujours facile, d'ailleurs, d'être le fils d'un père qui est président de club. C'est mon fils qui est directeur sportif. Ça fait déjà 2 mois, 3 mois, qui travaille avec Red Bull sur la phase suivante. Alors, on est tous un peu superstitieux, donc on pouvait pas dire qu'on travaillait sur le projet de Ligue 1. Mais bien sûr qu'on a commencé à le faire, parce que ça vient vite maintenant. Hein.
Bon, bah, Pierre Ferracci,
vous avez commencé à faire la pelouse aussi, non? Parce que vous allez changer de pelouse l'année prochaine.
Ah ben au stade Jean-Bouin, on est obligé de changer la pelouse, puisque le rugby pouvait jouer sur un synthé. Mais là, on va mettre un hybride qui va supporter une équipe de rugby, une équipe de foot. Je pense que les joueurs de rugby, pour ceux qui ont fait du rugby, seront contents de ne pas jouer sur un synthé demain.
Exactement. Exactement.
Oui, exactement, oui.
Merci beaucoup, Pierre Ferracci, d'avoir été avec nous ce matin. C'était très agréable.
Merci de vous entendre.
Et vive les grandes gueules.
Et de nous faire partager votre bonne humeur, parce qu'elle est franchement communicative. Et
n'allez
bravo.
Pas trop vite sur la route. Il paraît que vous allez un peu à bloc quand même. Hein.
Ouais, attention. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ouais. Imaginez, on est rentré à 3h du matin.
Bravo, salut, Paris FC et la section féminine qui joue donc la finale de la Coupe de France aujourd'hui à 15h face au Paris Saint-Germain. Le premier choc entre les deux clubs parisiens. Merci encore, Pierre Ferracci. du Paris FC au Paris SG, c'est le moment pour vous de vivre l'expérience RMC et de gagner vos places Paris Saint-Germain Arsenal. C'est mercredi prochain à 21h au Parc des Princes. À partir de maintenant, vous envoyez PSG au 732-16. PSG au 732-16, vous avez 5 minutes pour vous inscrire et peut-être repartir avec deux places pour PSG Arsenal. Allez, à tout de suite pour la suite des grandes gueules du sport, l'UBB Toulouse.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.